Chapitre 46. Faldara. Autour du portail, des collines boisées moutonnaient sous un soleil palichon. Où était donc le bosquet des ogiers? Ici, la plupart des arbres, squelettiques, ressemblaient à des vieillards édentés. Les variétés à feuillage persistant étaient très rares, et leurs représentants faisaient peine à voir, car ils semblaient à un souffle de l'agonie. S'abstenant de tout commentaire, Loyal hocha tristement la tête.
Aussi mort que les terres dévastées, ce coin du monde.
Lâcha Ninévé. Tremblant de froid, Egwen s'en étouffla de son mieux dans sa cape.
Au moins on est sorti,
dit Perrine.
Oui, mais où?
Demanda Matt.
Nous sommes au Chiennard, un pays de terres frontalières,
annonça Lan. Dans sa voix, quelque chose semblait dire « à la maison, enfin ». Rand s'en mitoufla lui aussi dans sa cape. Les terres frontalières. La flétrissure ne pouvait pas être très loin. L'œil du monde non plus. Et tous les ennuis qui iraient avec.
« Nous sommes très près de Faldara »,
dit Moiraine. La petite colonne se mit en chemin, prenant comme coin de repère les tours qui se dressaient au nord et à l'est de sa position. Selon les creux et les bosses de l'itinéraire, il arrivait que ces édifices ne soient plus visibles, mais ça ne durait jamais très longtemps. Rand remarqua plusieurs arbres fendus en deux, comme s'ils avaient été frappés par la foudre.
« Le froid, »
répondit Lan quand le jeune homme se fut décidé à lui poser la question.
« Quand la température est trop basse, la sève gèle et l'arbre explose. Certaines nuits, on les entend crépiter comme des feux d'artifice, ces pauvres végétaux. » L'hiver passé, c'est arrivé très souvent.
Rand secoua la tête, pensif. Des arbres qui explosent? Même pendant un hiver normal? Bon sang. À quoi avait pu ressembler le dernier?
Sûrement à rien qu'il soit en mesure d'imaginer.
Qui a parlé de l'hiver passé?
Demanda Matt en claquant des dents.
Allons, garçon de ferme. C'est un très beau printemps pour la région. Un merveilleux moment pour être encore vivant.
Lan sourit.
Mais si tu veux que ça chauffe, attends d'être dans la flétrissure.
Par le sang et les cendres,
marmonna Matt.
Par le maudit sang et les fichus cendres.
Rand entendit à peine ses commentaires, mais ils semblaient venir droit du cœur. Les voyageurs commencèrent à passer devant des fermes, et bien que ce fût l'heure où aurait dû mijoter le repas de midi, ils ne virent pas de fumée sortir des hautes cheminées de pierre. On n'apercevait ni homme ni bête dans les champs, même si une charrue ou une charrette, provisoirement abandonnée, paraissait parfois attendre le retour imminent de leur propriétaire. Dans une cour de ferme située très près de la route, une poule solitaire creusait la terre en quête de quelques limaces. Une porte de grange oscillait au vent, un des battants à demi arraché de ses gonds. La grande bâtisse résidentielle, carrément démesurée aux yeux d'un habitant de Chandemonde, était déserte et silencieuse. Avec son toit en pente dont les bardeaux touchaient presque le sol, la maison ressemblait davantage à une auberge qu'à une ferme. Aucun chien ne vint aboyer au basque des étrangers. Une faux gisait au milieu de la cour, et des seaux renversés formaient un petit amas à côté du puits. Moiraine n'aima pas du tout ce spectacle. Secouant les rênes d'Aldieb, elle la força à avancer plus vite. Chevauchant avec ses amis de Deux Rivières et Loyal, quelques pas derrière la Sedai et le champion, Rand n'en croyait pas ses yeux. Il ne voyait pas comment on pouvait faire pousser quelque chose dans un coin pareil. Cela dit, il n'aurait pas imaginé non plus que les chemins puissent exister. Et même après en être sorti, ça ne s'imprimait toujours pas dans son cerveau.
« Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ça »,
dit Ninévé avec un geste circulaire qui englobait tout le paysage.
« Où sont partis les gens ?»
demanda Egwen.
« Et pourquoi cet exode? Leur départ doit être récent. »«
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»
demanda Matt.
« Si j'en juge par cette porte de grange, ils ont peut-être fichu le camp avant l'hiver. »
Ninévé et Egwen regarda le jeune homme comme s'il était un crétin congénital.
« Les rideaux, aux fenêtres !»
dit Egwen, comme si elle parlait à un enfant pas très doué.
Ils sont trop fins pour la mauvaise saison, surtout ici. Avec les rigueurs du climat, Aucune maîtresse de maison ne les aurait gardés tout au long de l'hiver. »
La sage-dame approuva du chef cette analyse.
« Les rideaux !»
ricana Perrine. Il redevint sérieux quand il vit que les deux femmes le foudroyaient du regard.
« Du calme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Matt, tu as vu la faux ? Il y aurait eu plus de rouille que ça si elle avait passé tout l'hiver dehors. Même si les rideaux ne t'ont pas frappé, tu aurais dû noter ce détail-là. »
Rand jeta un coup d'œil discret à Perrine. À l'époque où ils chassaient ensemble, il avait une meilleure vue que l'apprenti forgeron. Mais là, il aurait été incapable de dire si la lame de la faux était rouillée ou non.
« Au fond, je me fiche de savoir quand ces gens sont partis. »
grommela Matt.
« J'aimerais juste m'asseoir devant un bon feu, et le plus vite possible. »«
Pourquoi sont-ils partis ?»
demanda Rand à voix basse, juste pour lui-même. La flétrissure n'était plus très loin. En d'autres termes, l'endroit où se terraient tous les Trollocs et les Myrdraal qui ne les avaient pas traqués en Andorre. Bref, ils se jetaient dans la gueule du loup. Cette fois, Rand parla assez fort pour que ses amis l'entendent.
« Nineveh et Egwene, vous n'avez pas besoin de nous suivre jusqu'à l'œil du monde. »
Comme Rand le prévoyait, les deux femmes semblèrent se demander quelle mouche venait de le piquer. Mais la destination approchant dangereusement, il devait insister.
« Il suffit peut-être que vous soyez à proximité. Moiraine n'a jamais dit que vous deviez y être. C'est pareil pour toi, Loyal. Vous pourriez attendre notre retour à Faldara. » Ou partir pour Tarvalon. Il y aura sans doute une caravane de marchands. Sinon, Moiraine vous louera une diligence. Et quand tout sera fini, nous vous retrouverons à Tarvalon.
Taveren, soupira l'augier de sa voix de stentor. Randaltor, tes amis et toi attirez nos vies comme un aimant attire le fer. Votre destin détermine le nôtre. Et il n'y a rien à faire contre ça. » Il eut soudain un grand sourire. « En plus, l'idée de voir l'homme vert est loin de me déplaire. L'ancien Aman m'a souvent raconté sa rencontre avec lui. Mon père aussi, comme la plupart des anciens, à vrai dire. »
« Tant de gens que ça ?»
s'étonna Perrine.
« Les récits disent que l'homme vert est très difficile à trouver. »
Et de toute façon, nul n'y arrive deux fois.
C'est vrai, mais je ne l'ai jamais vu, et vous trois non plus. Apparemment, il n'évite pas les augiers, alors qu'il fuit les humains. Il sait tant de choses sur les arbres. Il connaît même les chansons des arbres.
Ce que je voulais dire,
commença Rand. Mais la sage-dame lui coupa la parole.
Elle a dit qu'Egwene et moi faisons partie de la trame. Nous sommes impliqués avec vous trois dans ce tissage. Et si on peut la croire, selon la façon dont il est réalisé, il a une chance de provoquer la défaite du Ténébreux. Même si ça me fend le cœur, j'ai tendance à la croire, parce que les événements confirment ce qu'elle avance. Si Egwene et moi ne venons pas avec vous, qui sait ce que ça changera à la trame?
J'essayais simplement de...
Une nouvelle fois, Nineveh empêcha Rand de continuer.
« Je sais très bien ce que tu tentes de faire. »
La sage-dame dévisagea Rand jusqu'à ce qu'il s'agite nerveusement sur sa selle.
« Je le sais, ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune sympathie pour les Aes Sedai, et pour celle-là encore moins que pour les autres. Quant à m'aventurer dans la flétrissure... Mais je déteste encore plus le père des mensonges. Si des garçons comme vous... Non, des hommes comme vous... remplissent leur mission alors qu'ils donneraient cher pour être ailleurs, au nom de quoi devrais-je me dérober à la mienne? Cette remarque vaut bien entendu aussi pour Egwene.
Nineveh marqua une pause, le regard rivé sur la nuque de l'Aes Sedai qui les précédait.
J'espère que nous arriverons bientôt à Faldara. Où pensez-vous qu'elle nous fera chevaucher toute la nuit?
Alors que Nineveh se détachait du petit groupe pour aller rejoindre Moiraine, Matt prit la parole.
Elle a bien dit « homme » à notre sujet? Il n'y a pas si longtemps que ça, elle nous conseillait de rester dans l'Égypte de notre mère. Et voilà que nous sommes des hommes.
Homme ou pas, vous auriez dû rester dans l'Égypte de votre mère.
Lâcha froidement Egwene. Mais Rand doutait que la jeune fille ait pensé ce qu'elle disait. Et Gwen vint chevaucher à côté du jeune berger et lui parla à voix basse, pour que personne d'autre n'entende. Matt tendit l'oreille, mais en vain, selon toute probabilité.
« Rand, j'ai seulement dansé avec le Zingaro. »
dit la jeune fille sans regarder son compagnon.
« Tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir dansé avec quelqu'un que je ne reverrai jamais, pas vrai ?»«
Non, bien sûr que non. »
Pourquoi aborde-t-elle ce sujet maintenant ? Soudain, Rand se souvint de ce que lui avait dit Mine à Berlon, une éternité plus tôt.
« Elle partage tes sentiments, mais vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Enfin, pas de cette façon-là. »
Faldara était construite sur une colline. Bien plus petite que Kimlin, la ville était pourtant défendue par un mur d'enceinte au moins aussi haut. Autour de cette muraille, et sur un cercle très large, il n'y avait que de l'herbe coupée très ras. Du coup, nul ne pouvait approcher de la cité sans être immédiatement repéré par les gardes postés au sommet des hautes tours de guet en bois. Si le mur de Kemlin pouvait être qualifié de beau, celui de Faldara annonçait clairement les choses. Construit pour résister, il n'était là que pour ça, mais il était bien là. Les bannières qui battaient au vent arboraient fièrement le faucon noir du Chiennard, qui semblait ainsi voler tout autour de la muraille. L'âne rabattit la capuche de sa cape. Malgré le froid, il fit signe à ses compagnons de l'imiter. Moiraine n'avait pas attendu son geste pour le faire.
« C'est la loi au Chiennard, »
dit le champion.
« Et dans toutes les terres frontalières. Il est interdit de dissimuler son visage en approchant des fortifications d'une ville. « Les gens sont-ils tous beaux comme des dieux dans le coin ?»
plaisanta Matt.
« Non, mais un blafard ne peut pas passer inaperçu s'il dévoile son visage. »
Le sourire de Rand s'effaça. Penaud, Matt abaissa prestement sa capuche. Les grandes portes bardées de fer étaient ouvertes, mais une dizaine de gardes en armure, leur tabard jaune arborant lui aussi le faucon noir, surveillaient les entrées et les sorties. Portant tous une épée à deux mains dans le dos, ces soldats étaient également équipés d'une épée courte ou d'une masse d'armes. Attachés non loin de là, leurs chevaux carapassonnés, une lance calée dans un étrier, avaient l'air penauds et maladroits, avec ce poids d'acier sur le corps. Mais il ne fallait surtout pas s'y tromper. Au combat, ils se révélaient redoutables. Les gardes n'esquissèrent pas le moindre geste hostile vis-à-vis des cavaliers. Bien au contraire, ils les saluèrent joyeusement.
« Daishan !»
cria même l'un d'eux en agitant au-dessus de sa tête un gantelet de fer.
« Daishan ! Gloire au bâtisseur !»
crièrent d'autres hommes.
Qui sera Iti Wancho ?
D'abord surpris, Loyal sourit de toutes ses dents et rendit leur salut aux gardes. Un des soldats courut un moment à côté du cheval de l'âne, un sacré exploit avec l'armure qu'il portait.
Daishan, la grue dorée volera-t-elle de nouveau ?
Va en paix, Ragan,
répondit simplement l'âne. L'homme s'écarta. S'il rendait lui aussi leur salut aux gardes, l'âne semblait plus sinistre que jamais. Alors que les cavaliers remontaient des rues bondées de monde et de chariots, Rand fit une observation qui le troubla. Faldara craquait aux entournures, comme beaucoup de cités, mais ses foules ne ressemblaient pas à celles de Kemlin ou de Berlon. Alors que les populations dans ces deux villes faisaient volontiers montre d'exubérance ou d'agressivité, les gens, ici, regardaient mornement passer les cavaliers. Les yeux voilés, le visage inexpressif, ils semblaient insensibles à tout. Des charrettes et des chariots étaient garés les uns derrière les autres dans toutes les rues, leur chargement essentiellement composé de meubles, d'objets quotidiens et de coffres ouvragés tellement remplis que des manches de vêtements en sortaient. Les enfants trônaient au-dessus de ces piles improbables. Une façon de les garder en vue, car les parents ne les laissaient pas s'éparpiller, même pour s'amuser. Les yeux écarquillés, les gamins étaient encore plus taciturnes que les adultes, et au moins aussi inquiets. Tout l'espace libre, entre les véhicules, était occupé par des enclos improvisés où s'entassaient des bovins à longs poils et des cochons tachetés de noir. Emprisonnés dans des caisses, les poules, les canards et les oies produisaient un vacarme qui compensait largement le silence de leurs propriétaires. Au moins, Rand savait maintenant où étaient allés les fermiers. L'âne guidait ses compagnons vers la citadelle qui se dressait au centre de la ville, sur une butte plus haute que toutes les autres. Des douves asséchées, mais très larges et au fond hérissées de grands pieux à la pointe acérée, défendait le mur d'enceinte du solide bâtiment. Un ultime bastion si le reste de la cité tombait entre les mains de l'ennemi.
« Bienvenue, Taishan !»
lança un des gardes postés dans la tour de guet à côté du grand portail.
« La grue dorée ! La grue dorée !»
cria un autre à l'intention de ses camarades des créneaux. Dans un roulement de tonnerre, les chevaux traversèrent le pont-levis puis franchirent la herse. Une fois dans la citadelle, l'âne mit pied à terre et guida Mandarb par la bride. Une nouvelle fois, il fit signe à ses compagnons de l'imiter. La première cour au sol pavé était entourée par des fortifications aussi impressionnantes que les précédentes. Malgré sa très grande taille, elle était bondée de monde, comme les rues. Mais ici, la foule était un tout petit peu plus disciplinée. Des guerriers en armure et des destriers carapaçonnés attendaient un peu partout. Dans la demi-douzaine de forges installées sur le périmètre de la cour, les marteaux s'abattaient sans relâche sur le métal, et d'énormes soufflets, actionnés chacun par deux hommes, alimentaient les flammes des fonderies. Des dizaines de garçons faisaient sans cesse la navette entre ces ateliers et les boutiques des maréchaux ferrants, leur livrant des fers à cheval encore chauds à la sortie de la forge. Des artisans, assis un peu partout, fabriquaient des flèches, alimentant des paniers qui, aussitôt remplis, disparaissaient pour céder la place à d'autres. Des garçons d'écurie en livrée noire et or, une rareté réservée au palais, accoururent pour prendre en charge les chevaux des visiteurs. Rand récupéra ses affaires, confia les rênes de Rouquin à un des serviteurs et s'intéressa à l'homme en cotte de maille et cuirasse qui venait de s'incliner respectueusement devant les nouveaux arrivants. Sous sa cape jaune vif bordée de rouge et ornée sur la poitrine d'un faucon noir, l'homme portait un surcot paré d'un hibou gris. En l'absence de casque, on pouvait dire qu'il était littéralement tête nue, car il ne lui restait plus un cheveu sur le crâne, à part un toupet au sommet tenu par une lanière de cuir.
« Cela faisait longtemps, Muaren Sedai. Ravi de te revoir, Daishan. Vraiment ravi. »
L'inconnu s'inclina devant Loyal.
« Gloire au bâtisseur. Qui sera Itiwancho ?»«
Je suis indigne de tant d'honneur, »
répondit l'ogier, se souvenant de la phrase rituelle.
« Et mon ouvrage est bien petit. Tsingu Machoba.
Ta visite est un honneur pour nous, bâtisseur. Qui sera Itiwancho ?»
Le chauve se tourna vers l'âne.
Daishan, j'ai fait prévenir le seigneur Agelmar dès que nous vous avons reconnu de loin. Il vous attend, si vous voulez bien me suivre.
Tandis que les visiteurs lui emboîtaient le pas, entrant dans la citadelle pour remonter une série de couloirs décorés de tapisseries à la gloire exclusive de la chasse et de la guerre, l'homme au hibou reprit son discours.
Je suis content que tu aies reçu l'appel, Daishan. Lèveras-tu de nouveau la bannière à la grue dorée ?
Comme les tapisseries, très économes sur les personnages et les décors, mais suffisamment explicites cependant en partie grâce à leurs couleurs vives, les couloirs étaient d'une sobriété remarquable pour un palais.
« Les choses vont-elles aussi mal qu'il y paraît, Ingtar ?»
demanda l'âne. Rand eut l'impression que ses oreilles frémissaient comme celles de Loyal. Ingtar secoua la tête, faisant osciller son toupet, mais il hésita avant de sourire.
« Elles ne sont jamais aussi graves qu'elles le semblent, Daishan. Cette année, tout va un peu plus mal, c'est vrai. Les raids ont continué pendant l'hiver, même au pire moment. Mais nous n'avons pas plus souffert que les autres cités frontalières. Nos ennemis viennent toujours pendant la nuit, mais ça n'a rien d'étonnant au printemps. Si on peut utiliser ce mot sans ricaner. Les éclaireurs qui réussissent à revenir de la flétrissure, pas la majorité loin de là, rapportent qu'il y a de plus en plus de camps de Trollocs. Mais nous les arrêterons à la brèche de Tarwyn, et nous les renverrons chez eux, comme d'habitude.
Bien entendu,
dit l'âne, sans parvenir à dissimuler ses doutes. Le sourire d'Ingtar s'effaça et réapparut immédiatement. Désignant la porte du bureau d'Agelmar, il s'excusa d'être débordé et de devoir prendre congé si vite. Comme toute la citadelle, le fief du seigneur Agelmar était une pièce fonctionnelle. Des meurtrières tenaient lieu de fenêtres sur le mur du fond, et une lourde barre permettait de fermer la porte également munie d'une meurtrière et amplement bardée de fer. Une unique tapisserie couvrait tout un mur. Elle représentait des soldats de Faldara aux prises avec des Trollocs et des Blafards dans une passe de montagne. Le mobilier se réduisait au strict minimum, une table, un coffre et quelques chaises. En revanche, les deux râteliers sur le mur opposé à la tapisserie retinrent l'attention de Rand. Le premier abritait une épée à deux mains plus haute qu'un homme ordinaire, une épée large plus classique, une masse d'armes hérissée de piques et un grand bouclier, un écu plus précisément, qui arborait trois renards roux courants. Sur l'autre râtelier, une armure intégrale était disposée dans la configuration exacte où on la portait. D'abord le haut macrette, avec une grille de protection pour le visage et son camail intégré, puis une longue cotte de maille, fendue pour faciliter l'équitation, et une cuirasse de rembourrage usée par le temps et les nombreuses utilisations. Venaient ensuite les plates de poitrine, les gantelets de fer, les demi-plates pour les épaules et les différentes protections prévues pour les bras et les jambes, avec des pièces spéciales pour les coudes et les indispensables genouillères. Même au cœur de la citadelle, les armes et l'armure étaient prêtes à servir à tout moment. Comme les meubles, nota Rand, elles étaient sobrement décorées de quelques touches d'or. À l'entrée de ses visiteurs, Hagelmar se leva, contourna son bureau couvert de cartes d'état-major, de rouleaux de parchemin et de plumes plantées dans des encriers, et vint les saluer. Avec sa veste de velours bleu à haut col et ses délicats escarpins, le seigneur semblait un peu trop pacifique pour une pièce si martiale. Mais il ne fallait pas se fier aux apparences. Le crâne rasé, comme tous les guerriers locaux, et le toupet blanchi par les ans, il affichait la même détermination de tous les instants que l'âne, et ses yeux marrons brillaient comme l'acier de ses diverses lames.
« Paix, Daishan, te revoir est un plaisir. »
Le seigneur de Faldara se tourna vers Moiraine.
« C'est également vrai pour toi, Moiraine Sedai, et peut-être même plus. Ta présence me réchauffe le cœur. »«
Ninte kalishniye no domashita, Hagelmar Daishan. »
Aes Sedai avait parlé très solennellement, mais une nuance chaleureuse dans sa voix indiquait qu'elle s'adressait à un vieil ami.
« C'est ton accueil qui me réchauffe le cœur, Seigneur Hagelmar. »
« Kodome kalishniye gani Aes Sedai hei. » Ici, les Aes Sedai sont toujours bienvenus.
Hagelmar se tourna vers Loyal.
« Tu es loin de ton sanctuaire, Ogier, mais ta visite est un honneur pour Faldara. Gloire éternelle au bâtisseur. Kiserai Tiwan Shohei. »
« Je ne suis pas digne de tant d'honneur, » dit Loyal en inclinant la tête.
« C'est votre accueil qui m'honore, Seigneur. »
Loyal jeta un regard noir au mur de pierre, tendu comme s'il menait un combat intérieur. Rand lui fut reconnaissant de ne pas ajouter un commentaire acide de son cru sur la disparition des arbres. Parfaitement silencieux grâce à leurs chaussures aux semelles souples, des serviteurs en noir et or entrèrent dans le bureau. Certains portaient sur des plateaux des serviettes imbibées d'eau chaude, qui permettraient aux voyageurs de se débarbouiller rapidement. D'autres apportaient du vin doux et des coupes remplies de prunes et d'abricots secs. Le seigneur Hagelmar ordonna qu'on prépare des chambres et des baignoires.
« Tarvalon n'est pas à côté, » dit-il ensuite. « Vous devez être fatigué. »
« Par le chemin que nous avons emprunté, » dit l'âne. « Ce fut un court voyage, mais encore plus épuisant. »
Hagelmar parut surpris que le champion ne lui fournisse pas plus d'explications. Mais il n'insista pas.
« Quelques jours de repos vous remettront d'aplomb. »«
Je te demande une nuit d'hospitalité, seigneur Hagelmar, »
dit Moiraine.
« Pour nous et pour nos chevaux. Et demain matin, si tu peux nous fournir des vivres, nous partirons très tôt, je le crains. »«
Mais j'ai pensé que... Moiraine Sedai, je n'ai aucun droit de te demander ça, mais... Sur la brèche de Tarwin, tu vaudrais bien un millier de lanciers. Quant à toi, Daishan, 1000 hommes supplémentaires me rejoindront s'ils savent que la grue dorée vole de nouveau. »
« Les 7 tours sont brisées, »
répondit l'âne.
« Et le Malkier est mort. Les rares survivants de son peuple sont dispersés sur la face du monde. Hagelmar, je suis un champion, fidèle à la flamme de Tarvalon, et je dois aller dans la flétrissure. »
« Je comprends, Daish... l'âne. Mais quelques jours de retard, 2 ou 3 semaines au maximum, ne changeront pas la face du monde. Ici, nous avons besoin de toi et de Moiraine Sedai. »
Moiraine prit le gobelet d'argent que lui tendait un serviteur.
« Ingtar semble convaincu que vous repousserez la menace, » comme d'habitude.
Ah, Aes Sedai, s'il devait aller combattre seul, il assurerait qu'un désastre guette les Trollocs. Cet homme est assez fier pour se croire capable de les écraser sans aide.
Il est moins confiant qu'il le paraît cette fois, dit Lan. Il avait accepté un gobelet, mais ne buvait pas.
C'est si grave que ça?
Après une brève hésitation, Agelmar tira une carte de sous une pile de documents. Il la regarda pendant un moment sans vraiment la voir, puis la repoussa.
Quand nous partirons pour la brèche, dit-il, les civils seront évacués vers Falmoran, au sud. Avec un peu de chance, la capitale tiendra. Tout ne peut quand même pas s'écrouler.
C'est donc encore plus grave que je le croyais.
Agelmar acquiesça. Rand échangea des regards inquiets avec Perrine et Matt. Il semblait logique de croire que les Trollocs qui se rassemblaient dans la flétrissure en avaient après lui, enfin, après eux.
Le Kandor, la Raphaël, le Saldaïa. Les Trollocs les ont attaqués sans relâche tout l'hiver durant. Rien de semblable n'est arrivé depuis les guerres des Trollocs. Les raids n'ont jamais été si violents et si massifs. Tous les rois et tous les conseils sont certains qu'une grande attaque se prépare. Bien entendu, tous les royaumes des terres frontalières pensent être la cible prioritaire. Les champions et leurs propres éclaireurs ne rapportent aucun mouvement le long de leurs frontières, contrairement à ce qui se passe sur la nôtre. Mais ils n'en démordent pas et refusent de nous envoyer des renforts. Partout, des gens murmurent que la fin du monde approche, parce que le ténébreux s'est libéré. Le Chienar devra combattre seul à la brèche de Tarwyn, et nous lutterons à 1 contre 10. Au minimum. Ce sera peut-être la dernière assemblée des lances. Lan, non. Daishan, car tu es un seigneur de guerre au diadème du Malkier. Quoi que tu en dises. Daishan, si la bannière à la grue dorée flotte à côté de la nôtre, elle donnera du cœur au ventre aux hommes qui chevaucheront vers la mort en toute connaissance de cause. La nouvelle se répandra plus vite que le vent, et malgré les ordres de leur roi, des guerriers viendront d'Arafel et du Kandor, et même du Saldaïa. Même s'ils n'arrivent pas à temps pour se battre sur la brèche de Tarwyn, ils sauveront peut-être le Chienar.
Lan baissa les yeux. Aucune émotion ne passa sur son visage, mais du vin aspergea sa main. Car il venait d'écraser dans son poing le gobelet d'argent. Un serviteur vint prendre le gobelet irrécupérable, puis il essuya la main du champion. Dès qu'il eut fini, un autre domestique donna un nouveau gobelet à l'invité. Lan ne sembla pas vraiment remarquer tout ce manège.
« Je ne peux pas, »
soupira-t-il, accablé. Il releva la tête, ses yeux bleus brillants de fureur, mais quand il parla, sa voix ne tremblait plus.
« Agelmar, je suis un champion. »
Il regarda les trois garçons, puis Moiraine.
Dès l'aube, je partirai pour la flétrissure.
Alors toi, Moiraine Sedai, viendras-tu avec nous? Une seule Aes Sedai peut faire toute la différence.
C'est impossible, Seigneur Agelmar. J'en suis navré, car cette bataille est importante. D'autant plus que les Trollocs n'attaquent pas le Chienar par hasard. Mais notre combat, le véritable affrontement contre le ténébreux, se déroulera devant l'œil du monde. Tu as une guerre à faire, Seigneur, et nous en avons une autre.
Tu ne veux pas dire que c'est perdu d'avance ?
S'écria Agelmar. Si incroyable que ce fût, le roc de Faldara était ébranlé.
Rien n'est joué. Si nous gagnons, il n'y aura peut-être plus jamais de danger.
Trouveras-tu l'œil du monde, Aes Sedai ? Si la victoire contre le ténébreux en dépend, autant nous ouvrir tout de suite les veines. Bien des gens ont tenté en vain de le trouver.
Je peux réussir, Seigneur. Tout espoir n'est pas encore perdu.
Agelmar dévisagea Moiraine, puis il s'intéressa à ses compagnons. Ninévée et Egwen l'intriguèrent beaucoup, sans doute à cause de leur simple tenue de paysanne, un contraste frappant avec la robe de soie de l'Aes Sedai, même si les trois femmes étaient couvertes de poussière après leur voyage.
« Ce sont des Aes Sedai ?»
demanda Agelmar, dubitatif. Quand Moiraine secoua la tête, il sembla encore plus troublé. Étudiant les trois garçons, il laissa son regard poser un court instant sur l'épée toujours enveloppée de tissu rouge.
Tu as une bien curieuse escorte, Aes Sedai. Un seul guerrier.
Il jeta un coup d'œil à Perrine, ou plutôt à sa hache.
Peut-être deux, mais des gamins, ou quasiment. Permets-moi de te prêter des hommes, Moiraine Sedai. 100 lances de plus ou de moins ne feront aucune différence sur la brèche de Tarwyn. Toi, il te faudra davantage qu'un champion et 3 jouvenceaux. Les 2 femmes ne t'aideront pas, sauf si ce sont des aïels déguisés. Cette année, la flétrissure est pire que jamais. Elle s'agite.
100 lances, ce serait trop, dit Lan. Et 1000, ça ne serait pas assez.
Plus nous serons nombreux, et plus nous attirerons l'attention. Si c'est possible, nous devrons trouver l'œil du monde sans combattre. Quand on affronte des trollocs dans la flétrissure, l'issue est toujours incertaine, tu le sais aussi bien que moi.
Aguelmar acquiesça, mais il ne baissa pas les bras pour autant.
Moins de guerriers dans ce cas. Lan, 10 hommes de plus te donneraient une meilleure chance d'escorter Moiraine Sedai et ses 2 compagnes jusqu'à l'Homme Vert. Avec ces jeunes gens, tu es très mal parti.
Rand comprit soudain. Pour le seigneur, au moment du combat contre le Ténébreux, ce seraient Nineveh et Egwene qui assisteraient Moiraine. Une déduction parfaitement logique dans ce contexte. Les luttes de ce genre impliquaient l'utilisation du pouvoir, et pour cela, il fallait des femmes. Les luttes de ce genre impliquent l'utilisation du pouvoir. Se sentant frissonné, Rand glissa les pouces sous sa ceinture et serra très fort la boucle afin d'empêcher ses mains de trembler.
« Pas de guerrier, »
trancha Moiraine. Aguelmar voulut continuer le débat, mais elle fut plus rapide que lui.
C'est la nature même de l'œil du monde et de l'homme vert qui l'exige. Combien d'hommes de Faldara ont réussi à les trouver?
Dans l'histoire,
demanda Aguelmar.
Depuis la guerre des 100 années, ils sont très rares. Pour toutes les terres frontalières, on doit arriver à 1 cas tous les 5 ans.
Personne ne peut localiser l'œil sans l'accord de l'homme vert,
dit Moiraine.
La clé de tout, c'est le besoin. En d'autres termes, la nécessité. Je sais où aller, car ce ne sera pas la première fois.
Rand enleva la tête de surprise, et ses amis de Champ des Mondes l'imitèrent, mais Aes Sedai ne sembla pas s'en apercevoir.
« Tu as déjà rencontré l'homme vert ?»
s'exclama le seigneur de Faldara, très impressionné. Mais il se rembrunit très vite.
« Dans ce cas, tu risques de ne pas pouvoir... »
« Le besoin est la clé, »
dit Moiraine.
« Et il n'en existe pas de plus impérieux que le mien. Que le nôtre, devrais-je dire. Et j'ai un atout dont étaient privés tous mes prédécesseurs. »
Presque imperceptiblement, les yeux de Aes Sedai se détournèrent du seigneur pour se poser sur Loyal. Bien que cela n'ait pas duré plus d'une seconde, Rand s'en aperçut. Il interrogea son ami du regard, mais celui-ci haussa les épaules.
« Taveren. »
souffla-t-il simplement.
Si tu le dis, qu'il en soit ainsi, Aes Sedai,
déclara Aguelmar.
Mais si la vraie bataille doit se dérouler devant l'œil du monde, je me demande si l'armée du Faucon Noir ne devrait pas t'accompagner, au lieu d'aller guerroyer sur la brèche de Tarwyn. Avec mes troupes, je pourrais t'ouvrir un chemin dans...
Seigneur, ça conduirait à un désastre. Non, à 2. 1 sur la brèche et l'autre devant l'œil. « Comme je l'ai déjà dit, vous avez une guerre à faire, et nous en avons une autre. »«
Paix, Aes Sedai. Je ne discuterai plus. »
Après avoir pris une décision, même si elle lui déplaisait souverainement, le seigneur au crâne rasé semblait enclin à l'enfouir dans son esprit. Rompant le dialogue, il invita les visiteurs à sa table. Puis il entreprit de faire la conversation, parlant de faucons, de chevaux et de chiens de chasse. De la soirée, il ne mentionna plus jamais les trollocs, la brèche de Tarwyn et l'œil du monde. La salle à manger où se déroula le dîner était aussi fonctionnelle que le bureau d'Aguelmar. À part la grande table et les sièges, il y avait fort peu de meubles, et là encore le mot « austérité » venait automatiquement à l'esprit. Cette notion n'excluait pas une certaine beauté, mais elle lui fixait des limites très strictes. Dans le même ordre d'idées, Le feu qui crépitait dans la cheminée réchauffait raisonnablement l'atmosphère, mais pas assez pour qu'un invité appelé à l'extérieur d'urgence soit tétanisé par le froid. Les serviteurs apportèrent de la soupe, du fromage et du pain. La chasse pour un temps délaissée, la conversation s'orienta sur les livres et sur la musique. Jusqu'à ce qu'Aguelmar s'aperçoive que les gens de Deux-Rivières n'y participaient pas. En hôte courtois, il commença à leur poser des questions très discrètes, histoire de les tirer de leur mutisme forcé. Rand constata qu'il était intarissable dès qu'il s'agissait de son territoire natal. Ne pas en dire trop lui coûta de gros efforts, et il espéra que ses amis, en particulier Matt, sauraient tenir leur langue. Contrairement aux jeunes gens, Ninevé resta sur son camp à soi, se contentant de manger et de boire en silence.
« Chez nous ?»
dit Matt.
« Il existe une chanson intitulée « Revenir de la brèche de Tarwin ». »
Il n'alla pas plus loin, conscient de s'aventurer sur le terrain glissant qu'il convenait justement d'éviter. Très délicatement, Aguelmar le tira d'embarras.
« C'est normal. Au fil des ans, presque tous les pays ont envoyé des hommes combattre sur la brèche. »
Rand interrogea du regard ses deux amis. Avec les lèvres, mais sans le son, Matt forma les quatre syllabes du nom Manéterène. Aguelmar murmura quelques mots à un serviteur. Tandis que certains débarrassaient la table, d'autres domestiques apportèrent une grande boîte à tabac et des pipes en terre pour l'âne, Loyal et le seigneur.
« Du bon gris de Deux-Rivières !»
dit Aguelmar. Les trois hommes entreprirent de bourrer leurs pipes.
« Difficile à avoir, mais il vaut son prix. »
Lorsque les pipes furent allumées, le seigneur de Faldara se tourna vers Loyal.
« Tu sembles troublé, bâtisseur. Ce n'est pas le mal du pays, j'espère. Depuis quand as-tu quitté ton sanctuaire ?»«
Ce n'est pas le mal du pays. Pour ça, je ne voyage pas depuis assez longtemps. »
L'ogier haussa les épaules, puis fit un grand geste qui transforma en tourbillon la colonne de fumée montant de sa pipe.
« Je pensais, ou plutôt j'espérais, que le bosquet serait encore là, ou au moins qu'il resterait quelque chose de Mafalda Daranel. »«
Qui sera Itiwancho ?»
murmura Aguelmar.
« Bâtisseur, les guerres des Trollocs n'ont laissé que des souvenirs et des gens prêts à reconstruire sur les ruines. Mais ils n'ont pas su reproduire l'œuvre des Ogiers, et je ne les en blâme pas, car j'en serais également incapable. Les formes délicatement incurvées et mystérieusement entrelacées que crée ton peuple sont bien au-delà des compétences humaines. Les architectes du passé ont-ils délibérément évité toute imitation, afin de ne pas avoir en permanence sous les yeux l'image de ce qui était irrémédiablement perdu ? C'est très possible. Pour moi, il y a une forme de beauté dans la simplicité poussée à l'extrême, l'équivalent d'une fleur solitaire qui pousse au milieu de rochers. Nous essayons de ne pas trop pleurer sur ce qui n'est plus. Sans cette retenue, le cœur le plus vaillant ne résiste pas très longtemps à la pression.
« Un pétale de rose flotte sur l'eau », récita l'âne. « Le martin pêcheur vole à ras de la surface, et la vie et la beauté tourbillonnent dans les brumes de la mort. »
« Oui, »
dit Aguelmar.
« Pour moi aussi, ce poème dit tout ce qui doit être dit sur l'existence. »
Les deux hommes hochèrent pensivement la tête. « Un poème dans la bouche de l'âne ?» s'étonna Rand. Décidément, le champion était comme un oignon. Chaque fois qu'on pensait le connaître, il découvrait une nouvelle peau sous la précédente.
« Il se peut que je pleure trop sur ce qui est perdu. »
concéda Loyal.
« Mais les bosquets étaient si beaux. »
Regardant autour de lui, il sembla cependant voir la salle sous un tout autre jour, et lui trouver un réel intérêt. Ingtar entra soudain et s'inclina devant son seigneur.
« Désolé de cette intrusion, mais vous m'avez chargé de vous prévenir de tout événement sortant de l'ordinaire. »«
C'est exact. Que se passe-t-il ? » ?»«
Rien de vraiment grave, seigneur. Un étranger a tenté de s'introduire en ville. Pas un homme du Chiennard, mais plutôt quelqu'un de Lougarde, vu son accent. Sa pointe d'accent, en fait. Quand les gardes de la porte sud ont voulu l'interroger, il s'est enfui dans la forêt. Mais peu après, on l'a surpris en train d'escalader la muraille d'enceinte.
Rien de vraiment grave ?
Répéta Hagelmar en se levant si vite qu'il renversa sa chaise.
Paix, Ingtar ! Les guetteurs sont négligents au point de laisser un homme approcher du mur, et ça ne t'inquiète pas plus que ça !
C'est un fou, seigneur. La lumière protège les démons, c'est bien connu. Elle a sans doute aveuglé le guetteur, afin que cet homme puisse approcher du mur. Mais quel mal peut faire un seul esprit dérangé ?
Il est prisonnier à la citadelle ?
Ingtar acquiesça.
Très bien. Qu'on me l'amène sur le champ.
Le guerrier s'inclina, puis alla exécuter l'ordre de son seigneur.
Désolé, Aes Sedai, mais je dois m'occuper de cette affaire. Ce n'est peut-être qu'un imbécile à l'esprit brûlé par la lumière, mais sait-on jamais. Il y a 2 jours, 5 citadins ont été surpris en train de regarder dehors par l'entrebâillement d'un portail secondaire. Une issue très petite, certes, mais suffisante pour laisser passer les trolloques. Une manigance de suppôts de ténèbres, j'imagine. Même si je déteste penser que des gens du Chiennard puissent appartenir à cette engeance. Ces traîtres ont été taillés en pièces par d'autres citadins avant qu'on ait pu les arrêter, donc je ne saurai jamais. Si des compatriotes peuvent être des suppôts, je dois me montrer encore plus méfiant envers les étrangers, pas vrai ? Si vous préférez vous retirer, mes amis, je vous ferai conduire à vos chambres.
Les suppôts des ténèbres se fichent des frontières et du sang qui coule dans leurs veines.
Dis Moiraine.
Il y en a dans tous les royaumes, et ils n'appartiennent à aucun. J'aimerais également voir ce simple d'esprit. La trame tisse un lacis, seigneur, et sa forme définitive est encore à déterminer. Ce lacis peut englober le monde entier, ou se défaire de lui-même et inciter la roue à se lancer dans un nouveau tissage. Au point où nous en sommes, le détail le plus insignifiant peut avoir une influence capitale. En conséquence, je me méfie des événements pas vraiment graves qui sortent de l'ordinaire.
Hagelmar jeta un rapide coup d'œil aux 2 autres femmes.
Comme tu voudras, Aes Sedai.
Ingtar revint avec 2 gardes armés de halbardes qui escortaient un déchet d'humanité tel qu'on l'aurait plus facilement pris pour un sac à ordures retourné. Le visage, les cheveux et la barbe constellés d'immondices, l'homme empestait autant qu'une armée de putois. Rand l'étudia, tenta de voir ce qui se dissimulait sous la crasse.
« Vous n'avez pas le droit de me maltraiter !»
cria le loqueteux.
« Je ne suis qu'un pauvre air abandonné par la lumière, qui cherche un abri pour échapper aux ténèbres. »
« Dans les terres frontalières ?»
s'étonna Hagelmar.
« C'est un drôle d'endroit pour... »«
Le colporteur ?»
s'écria Matt.
« Oui, pas d'Anfein !»
approuva Perrine.
Le mendiant !
S'étrangla à demi-rande. Il se radossa à son siège, terrifié par la haine qui faisait briller le regard du prisonnier.
C'est lui qui nous cherchait à Kemlin. Ça tombe sous le sens.
Cette affaire te concerne, Moiraine Sedai,
dit Hagelmar.
Il semble bien, hélas.
Je ne voulais pas !
Hurla Padanfein. Des larmes roulèrent sur ses joues sans entamer la couche de crasse.
Il m'a obligé avec ses yeux de feu.
Rand frissonna. Matt glissa la main sous sa veste, sans doute pour serrer de nouveau sa dague de Shadar Logoth.
Il a fait de moi son chien de chasse. Je n'ai pas droit à 1 minute de repos, toujours en train de renifler une piste.
Cette affaire nous concerne tous,
dit Moiraine d'un ton sinistre.
Seigneur Hagelmar, y a-t-il un endroit où je puisse m'entretenir seul avec cet homme ?
Elle eut une moue dégoûtée.
Mais qu'on lui fasse prendre un bain d'abord. Je devrais peut-être le toucher.
Le seigneur dit quelques mots à Ingtar, qui s'inclina et sortit à grandes enjambées.
« On ne me contraindra plus à rien !»
cria soudain Fein. C'était bien sa voix, mais il ne pleurait plus et faisait montre d'une incroyable arrogance. Se redressant de toute sa hauteur, il inclina la tête et brailla.
« Non ! C'est terminé !»
Fein se campa face à Hagelmar, comme s'il était son égal, les 2 soldats faisant partie de sa garde personnelle, non de ses geôliers.
Seigneur, il y a un malentendu. Je suis parfois victime d'un sortilège, mais ça ne durera plus très longtemps. Bientôt, je ne subirai plus d'influence extérieure.
Fane désigna ses haillons avec un rire méprisant.
Ne te laisse pas abuser par ma tenue, Seigneur. J'ai dû me déguiser pour échapper à mes poursuivants, et mon voyage fut long et difficile. Mes ennemis n'ont pas pu m'arrêter, et me voilà enfin dans un pays où on n'a pas oublié quel danger représente Baal-Zamon, un royaume où les hommes affrontent encore le ténébreux.
Rand n'en crut pas ses oreilles. Si c'était bien la voix de Fane, des mots pareils n'auraient jamais dû sortir de sa bouche.
« Tu es venu parce que nous combattons les Trollocs, »
récapitula Agelmar.
« Et tu es important au point que quelqu'un a voulu t'empêcher d'arriver à destination. Sais-tu ce que disent mes invités? Selon eux, tu es un colporteur nommé Padan Fane, et tu leur colles au basque. »
Hésitant, Fane regarda Moiraine, puis il détourna très vite la tête. Il étudia un moment les jeunes gens de Deux-Rivières, les yeux pleins de haine, puis se tourna de nouveau vers Agelmar.
Padan Fane est un des innombrables déguisements que j'ai dû porter au fil des ans. Les suppôts des ténèbres me traquent parce que j'ai appris ce qu'il fallait faire pour vaincre leur maître. Si tu veux, Seigneur, je peux te montrer.
Nous nous en sortons très bien,
répondit Agelmar.
La roue tisse comme elle l'entend, c'est vrai. Mais depuis la dislocation du monde, nous avons combattu le ténébreux sans avoir besoin des conseils d'un colporteur.
Seigneur, ta force est bien connue, mais résistera-t-elle indéfiniment aux ténébreux, hein? Ne te sens-tu pas souvent au bord du point de rupture ces derniers temps? Pardonne ma témérité, mais si tu ne fais rien, il t'écrasera au bout du compte. Je le sais, et tu peux me faire confiance sur ce point. Par bonheur, je peux te montrer comment chasser les ténèbres de ton royaume. Fie-toi à moi, Seigneur, et tu ne le regretteras pas. Tu purifieras ton royaume et les autres, rien de moins. Utilise ta puissance comme il faut et rien ne pourra t'arrêter. Si tu ne tombes pas dans les pièges que te tend Tarvalon, tu sauveras le monde. À jamais, ton nom sera lié à la grande et définitive victoire de la lumière.
Les gardes ne changèrent pas de position, mais leurs mains glissèrent sur la hampe de leur hallebarde, comme s'ils se préparaient à devoir combattre.
« Pour un colporteur, il a une haute opinion de lui-même, »
dit Agelmar à l'âne.
« À mon avis, Ingtar a raison. C'est un fou. »
Les yeux de Fane brillèrent de colère, mais son ton resta courtois et onctueux.
« Seigneur, je sais que mes propos peuvent sembler présomptueux, mais si... »
Il se tut et recula d'un pas, car Moiraine venait de se lever, contournant lentement la table. Sans les hallebardes croisées des gardes, Fane aurait sûrement détalé à toutes jambes. Aes Sedai s'arrêta près de Matt, lui posa une main sur l'épaule et se pencha pour lui parler à l'oreille. Très vite, il se détendit et sortit la main de sous sa veste. Moiraine l'abandonna et alla se camper aux côtés d'Agelmar face au colporteur, qui se ratatina de nouveau sur lui-même.
« Je le hais !»
gémit-il.
« Je veux qu'on me libère de lui, afin de pouvoir de nouveau marcher dans la lumière. Je veux qu'on me libère de lui, afin de pouvoir de nouveau marcher dans la lumière. »
Il éclata en sanglots.
« Il m'a forcé, vous dis-je. »
« Seigneur Agelmar, »
souffla Moiraine.
« Cet homme est bien plus qu'un simple colporteur. Plus vraiment humain. » Malfaisant au-delà de l'imaginable, et plus dangereux qu'on ne saurait le croire. Le bain peut attendre, je vais lui parler, car il n'y a pas de temps à perdre. Viens,